Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mets vous fasse. Et cet après-midi, je vous propose une halte, un répit, pour vous ressourcer au cœur de l'été, un peu d'air frais grâce à la poésie. Pourquoi ne pas se réciter des vers en marchant, en faisant du vélo, lire de la poésie chez soi, dans un jardin, à la plage ou dans un café, écrire quelques haïkus ou des alexandrins pour révéler le scintillement du monde sensible qui nous entoure sans que nous sachions toujours le voir, trop souvent capté par les voleurs d'attention que sont les outils numériques. Ma complice cet après-midi, Guillemette Odissino, bienvenue dans Grand Mets vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Jean-Joseph Julot.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez été professeur de français, d'histoire, géographie. Vous venez de publier une petite anthologie de la poésie française qui tient dans le creux de la main. Et vous avez jadis publié « Ça ne va pas, manuel de poésie-thérapie », une sorte de pastiche des ouvrages de développement personnel. Et vous avez également publié, bien sûr, la poésie
française pour les nuls.
Bonjour Pascal Schenck.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante, vous avez publié L'effet haïku, lire et écrire des poèmes courts, agrandit notre vie. Un haïku, qu'est-ce que c'est en quelques mots?
Alors c'est un poème bref. Voilà, en japonais, haïku ça veut dire poème bref. Et c'est un poème qui ne doit pas excéder, dans les codes, 17 syllabes.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine, grande lectrice de poésie devant l'éternel.
Oui, grande adoratrice.
Le Robert nous dit que la poésie, c'est l'art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, vers ou prose, l'harmonie et l'image. C'est également le caractère de ceux qui éveillent l'émotion poétique. Mais encore, Jean-Joseph Julot, ça tombe sur vous.
La poésie, c'est une sorte de refuge. La poésie a plusieurs effets. Le premier, c'est qu'elle nous renvoie dans les premières années peut-être de notre existence. N'oublions pas qu'on arrive dans l'existence quand on est nouveau-né. C'est un mystère. Tout ce qui nous entoure est un mystère. Les mots même sont des mystères. Et lorsqu'ils s'assemblent, eh bien, on commence à entrevoir le sens des phrases. Mais il y a toujours un côté magique. Et l'enfant vit dans la magie des mots. Donc la poésie, quand on la lit, ça nous replonge dans la magie des mots. Ça nous replonge aussi dans peut-être cet espace scolaire où on n'a pas eu que des misères, on a peut-être aimé aussi la poésie. Et troisième effet, ça va chercher en nous des zones de la sensibilité qu'on active rarement. Les zones les plus sensibles, les zones les plus vibrantes et celles qu'on aime fréquenter par l'intermédiaire de ces mots qui nous y reconduisent. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir. Vous disiez tout à l'heure, apprendre de la poésie, oui, l'apprendre, ça c'est une belle action.
J'aimerais citer le poète, professeur et critique littéraire Michael Edwards. La première vertu de la poésie serait de nous donner un accès plus intime au réel, de changer, ce faisant, notre perception du réel et de suggérer la possibilité d'un changement véritable. Pascal Schenck.
Je dirais même que bon, la poésie, ça veut dire création, hein, et il peut y avoir une cuisine poétique, du jardinage poétique, dans la mesure où on ajoute de soi dans ce qu'on est en train de faire, et de la conscience. Mais particulièrement avec les mots, on est capable de se réapproprier le réel, de livrer sa représentation du réel, et donc de s'en libérer. Et c'est vraiment le langage, c'est pour ça que moi j'ai fait le lien entre psychologie et poésie, puisque la psychologie, vous le savez, c'est par le langage pouvoir se réapproprier le réel.
Christine Lapelle-Edouel, la première vertu de la poésie, c'est de révéler un monde sensible que certains voient, les poètes, et d'autres pas.
Oui, et de nous permettre, c'est comme une porte, hein, de nous permettre de nous remettre en contact avec ce qu'il y a peut-être de plus sensible, en effet, en nous, et de plus caché, c'est-à-dire que c'est aussi une porte vers l'inconscient. Pourquoi est-ce que nous réagissons de manière aussi sensible à la poésie que nous lisons, que nous entendons? Pas besoin d'ailleurs qu'elle ait un sens, hein, ça c'est très important. Si elle a un sens, c'est parfait, mais si elle n'a pas de sens, ça marche tout autant. C'est-à-dire que c'est vraiment le lien entre notre inconscient et ce qui est exprimé.
Les poètes sont des voyants. En lisant, en récitant de la poésie, nous devenons également des voyants.
Oui.
Voyants d'un monde sensible que l'on ne voit plus au quotidien.
Oui, oui. C'est un monde... La poésie nous permet d'élargir notre perception, d'agrandir notre sensibilité et d'avoir accès à des images qui sont provoquées par des mots qui n'ont peut-être rien à voir les uns avec les autres, mais qui provoquent une image qui entraîne une émotion importante. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là et elle transforme quelque chose.
Guillemette Audicino.
J'avais préparé une petite phrase déjà, moi, de René Char, qui est extrait des feuillets d'hypnose. Et c'est drôle parce que ça tombe exactement dans ce qu'on est en train de dire sur cette perception, mais pratiquement de l'intérieur du sensible. Et d'ailleurs, c'est un haïku aussi. Il écrit juste cette phrase. Vous serez une part de la saveur du fruit. C'est-à-dire, c'est pas simplement le goûter, le regarder, l'admirer. C'est la poésie, je pense, vous met à l'intérieur du fruit, comme elle vous met à l'intérieur du sensible. Effectivement, même s'il n'y a pas de réflexion intellectuelle là-dessus. Pendant un bref moment, on est le fruit, on est l'arbre, on est la feuille, on est la mer, on est le ciel.
J'aime beaucoup cette définition de la poésie de René Guicadou, qui est un poète né en 1920, mort en 1951, né en Brière. Et il disait... La poésie, c'est inutile, comme la pluie. Voilà. Donc, voilà.
Comme le fruit.
Comme le fruit, voilà. C'est
Pascal
ça.
Cinq, la poésie, c'est aussi l'aptitude à éprouver l'émotion poétique. Chez vous, les haïkus vous ont permis d'accueillir la joie, la nostalgie, la tristesse, de l'amplifier peut-être, ou de la révéler
Dans cette tradition qui est en pleine mutation et qui est aussi très contemporaine, puisqu'elle circule sur Internet, je dirais que le poète est un méditant. Et c'est ce qui est très intéressant, moi, c'est ce qui m'a fasciné, c'est qu'il capte le réel, il s'ouvre au réel. Cette pratique m'a ouverte à l'observation. Moi qui n'arrive pas du tout à méditer devant un mur un quart d'heure par jour, je dois vous l'avouer.
À l'observation de vos émotions?
L'observation du réel. Mmh. Et de ces situations insensées qu'on vit toute la journée. Vous voyez, mon chat est en train de s'étirer, il fait 40 degrés, il fait très chaud, il rallonge de 10 cm. Haïku. Je croise un arbre jaune qui la veille était vert. Haïku. Et c'est cette pratique, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, ça vient du Japon, du zen, etc. C'est vraiment une pratique de la conscience. Ça peut aider, moi c'est ce qui a, ça a été le cas, ça m'a aidé à me réancrer dans le réel, à m'en échapper en même temps. C'est très curieux. Mais ça n'a rien à voir avec la poésie occidentale. Rien à voir.
Christina Pelédouel, la poésie permet de faire résonner la corde des émotions. Je cite Kafka, enfin je paraphrase plutôt Kafka. La poésie est la hache qui brise la couche de glace qui recouvre notre mer intérieure.
Oui, c'est tellement vrai. C'est une phrase qu'on connaît très bien de Kafka, mais c'est une définition parfaite et de la poésie et de la littérature. C'est-à-dire que ce sont des moyens d'atteindre peut-être ce qu'il y a de plus vrai en nous. Ils nous aident, les auteurs, les poètes, les écrivains nous aident à atteindre ce qui est le plus vrai, le plus sensible. Et c'est vrai, par exemple, pour les enfants. On parlait des enfants tout à l'heure. Les enfants sont des poètes géniaux parce qu'ils n'ont absolument pas d'a priori, pas de censure, et parfois, en effet, ils ne maîtrisent pas très bien le langage. Donc, ils ont accès tout de suite au maniement extrêmement intéressant de mettre des sens qui n'existent pas sur certains mots et de jouer avec les sonorités, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a le lien très important entre la musique et la poésie, entre le rythme et la poésie. C'est aussi sans doute pour ça que ça nous touche autant, parce que ça fait appel à l'imaginaire et pas du tout à la partie complètement cérébrale et rationnelle de notre cerveau. On est dans autre chose.
Je cite à nouveau Michael Edwards, « Les vers remplissent la réalité d'émotions humaines. La poésie sert au poète Dieu, d'oreille, de main, de nez, de bouche, de tous les sens qui habitent son corps et sa conscience. Par un travail rigoureux, syllabe après syllabe, le poème s'approche le plus près possible de l'être, de l'objet, de l'événement qu'il nomme. »
Oui, parce que bon, on peut passer des heures à remplir des cahiers émotionnels, on l'a tous fait à l'adolescence, etc. À partir du moment où on cherche à le codifier en certaines syllabes, ou en certains vers, ou en chansons, on va rééquilibrer cerveau gauche et cerveau droit. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que vous avez une émotion au début. Vous êtes en colère, par exemple, vous écrivez un haïku, 17 syllabes, ça devient comme un jeu mental avec le cerveau gauche, n'est-ce pas? Et là, vous êtes transformé après avoir écrit ça. C'est la magie de la poésie.
Jean-Joseph Julot.
La magie de la poésie, oui, la poésie nous permet de nous retrouver nous-mêmes, mais elle permet aussi de nous fédérer autour de poèmes qu'on connaît. Et vous voyez, par exemple, ici, on parle beaucoup de poésie, mais on va en dire un petit peu aussi. Si je dis, et je suis sûr qu'on va pouvoir le réciter ensemble, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend, car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Elle est moiteur de mon fond blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune ou blonde ou rousse, je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix, lointaine et calme et grave, est là l'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Ben oui, mais voilà, Verlaine.
C'est de la musique. C'est de la musique.
On y habitait la magie de Verlaine.
Et
on était tous silencieux, interdits. Et il y a quelque chose comme un rendez-vous avec la beauté, avec l'ineffable, avec l'incroyable beauté des mots.
Voilà, ça aussi, c'est la dimension absolue de la poésie. On l'a peu évoqué, mais la beauté qui nous saisit et que nous ne sommes pas capables d'analyser exactement comme devant la peinture ou comme devant la musique. On peut analyser la forme, on peut dire c'est un quatrain, ce sont des alexandrins, ce sont, peu importe, un haïku. La forme, on peut l'analyser très bien, on peut la travailler. Mais ce que les images poétiques transportent, la beauté qu'elle évoque en nous, ce n'est pas rationalisable. Et c'est ça qui est absolument merveilleux et extraordinaire et à disposition de tout le monde. Parce que un recueil de poésie, on le trouve à la bibliothèque du coin et on peut se plonger dedans. Enfin, récemment, j'ai découvert des poèmes de Raymond Carver que je ne connaissais pas, qui m'ont littéralement assise. C'est-à-dire que j'étais debout, il a fallu que je m'assoie pour pouvoir savourer ces poèmes merveilleux, magnifique, qui était d'une beauté et d'une émotion absolue.
On ne s'en est pas parlé avant l'émission, mais moi j'avais choisi ce matin un poème de Raymond Carver qui s'appelle Pluie. Réveillé ce matin avec une envie terrible de rester au lit toute la journée et de lire, m'y suis opposé quelques minutes et regardé la pluie à travers la fenêtre et lâché prise, me mettant entièrement à l'abri de ce matin pluvieux. Serais-je prêt à revivre ma vie avec les mêmes erreurs impardonnables? Oui, si c'était seulement possible, oui.
Et voilà. Et Raymond Carver, et qui est le roi de la forme extrêmement courte et concentrée, et en quelques phrases, il brosse toute une atmosphère dans laquelle chacun peut se reconnaître. En même temps, il le transcende.
Alexia Rivière, Claire Destacan et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. À tout le monde autour de la table, Paul McCartney, Silly Love Song.
On croit que c'est facile de ne rien faire du tout. Il faut passer le temps. C'est tout un travail.
Grand bien vous fasse.
Il faut passer le temps. C'est un travail de titan.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse aux vertus de la poésie qui peut illuminer nos vies avec Jean-Joseph Julot, Pascal Cinq, Chrissy Lapelle-Édouard et Guillemette Odissino.
Comprendre la poésie par le docteur J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Afin de bien comprendre la poésie, l'on doit d'abord se familiariser avec la métrique, les rimes et les figures de style. Et ensuite se poser deux questions. 1. Le thème du poème a-t-il été traité avec art? Et 2. Ce thème est-il important?
De l'excrément. C'est tout ce que vaut M. J. Evans Pritchard. Il ne s'agit pas de mesurer de la tuyauterie. Il s'agit de poésie. Je vous demande donc de déchirer cette page. Merci, Monsieur Dalton. À présent, dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde.
Extrait du Cercle des poètes disparus, Guillemette Odissino.
Bah oui, justement, ça tombe très bien parce que il faut quand même être un petit peu franc quand on est au lycée. Alors Baudelaire, ça va, évidemment, Baudelaire, ça va toujours. Mais il y a la poésie quand même aux jeunes gens. Et après, aux adultes qui ont plutôt l'habitude de lire des romans, ça fait un petit peu peur, hein, soyons honnêtes. On a toujours peur que ce soit abscon. On a justement peur, et c'est ça qui est fou, c'est de ne pas comprendre, alors que le but n'est pas forcément de comprendre, etc. Et moi, il m'est arrivé très souvent que, bah, par exemple, tout à l'heure, je lisais du René Char, et j'ai l'intention d'en lire encore. C'est parce que l'une de mes meilleures amies, Cécile, m'a offert Feuillet d'hypnose, en me disant que pour elle, c'était vraiment un livre important. Ça m'a donné, donc, forcément, par... amitié amoureuse, envie de le lire, et je me suis aperçu que René Char, finalement, était l'un de mes auteurs préférés. Mais je pense que la poésie, peut-être plus que toute autre forme de littérature, ça doit s'offrir, se partager.
Pascal Chien.
On doit rassurer les gens, en fait.
Oui, parce qu'un bon poème, finalement, et le texte que vous avez lu le dit, qu'est-ce que c'est? C'est l'impact. C'est la manière dont il nous touche. Si vous êtes dans l'explication, évidemment on a tous vécu ça à l'école, on nous a expliqué comment ça marchait et tout, mais on était dans un esprit analytique. En réalité, je vous dis un haïku par exemple. Me voici là où le bleu de la mer est sans limite. Me voici là où le bleu de la mer est sans limite. Lequel d'entre nous n'a pas ressenti, alors c'est écrit au XVIe siècle hein, par un moine, lequel d'entre nous n'a pas ressenti ça? Il n'y a pas besoin d'analyser. Et en France, le problème, je pense qu'on a avec la poésie, c'est qu'on a la plus belle du monde. On a les universités qui ont travaillé sur les plus grands poètes. On a Baudelaire, on a Verlaine, on a Rimbaud. Alors, s'affirmer poète dans tout ça, oser dire qu'on en écrit, c'est impossible.
Jean-Joseph Julot.
Oui, je crois qu'il y a une approche peut-être plus simple de la poésie de la part de ceux qui ont rompu avec les traumatismes que l'école leur a fait subir.
Merci parce de parler de traumatismes.
Mais c'est vrai parce que je sais que lorsqu'on est enseignant, moi j'ai été longtemps enseignant et j'aimais beaucoup faire apprendre de la poésie. Et j'aimais beaucoup quand mes élèves me disaient après que j'ai raconté la vie de Verlaine et de Rimbaud, ils me disaient: mais est-ce qu'on va apprendre un de leurs poèmes? Alors là, j'avais gagné, parce que je les avais mis en situation, je leur avais fait rencontrer les deux poètes, et ils me demandaient d'en apprendre.
Chrissy Lapelle-Édouard.
Oui, c'est vraiment la question de la cérébralité contre la sensibilité. L'école, bah, vous en parlez, est un moyen de permettre aux enfants, et donc plus tard aux adultes, d'entrer dans le domaine de la poésie. Alors évidemment, tout dépend de la manière dont on les initie à la poésie, mais faire écrire des poèmes aux enfants, par exemple, c'est un moyen formidable de les faire rentrer dans cet univers de plein pied.
Alors, j'avais un truc, moi aussi, j'écrivais au tableau, donc les poèmes, et avant que les élèves entrent en classe, j'effaçais des mots. Donc ils devenaient Rimbaud, ils devenaient Verlaine, et je leur disais, mais quel mot vous mettriez ici? Et j'ai vu quelquefois des élèves qui n'étaient pas très doués pour la matière scolaire trouver le mot et être éblouis par ce qu'ils avaient fait.
Je vous partage ça, c'est que quand on fait des ateliers haïku, particulièrement en classe de 6e, où vraiment les gamins commencent à avoir un vocabulaire assez développé, etc. Le fait d'avoir réussi à écrire un poème, et on leur dit bravo, c'est un poème, mais tous s'en sortent avec une estime d'eux-mêmes grandie. Oui. Ils sont heureux. Qui va leur faire écrire un sonnet en sixième. Personne.
C'est vrai. La scansion, la rime, enfin, la longueur des vers, tout ça, ça a été utile quand il n'y avait pas l'imprimerie aussi. Parce qu'on emportait, ça devait être des chansons de gestes, on emportait avec soi un texte, il fallait absolument se le rappeler, il fallait le scander, et puis ça, c'est de la poésie classique, c'est l'héritage de tout ça, autant où la musique et la poésie jusqu'au XIIIe, XIVe siècle étaient solidaires, bon, il n'y a pas de problème, mais c'est après que...
Ça reste de la musique. Ça reste,
ouais. Pascal Schenck, je rappelle que vous avez publié L'effet haïku. Après les attentats de 2015, vous avez eu envie de faire connaître les haïkus au plus grand nombre. Expliquez-nous pourquoi.
Parce que j'avais déjà écrit une préface aux anthologies, je lisais beaucoup de haïkus et ça m'aidait beaucoup dans mon quotidien, ça me faisait voir le monde autrement, notamment la nature, ça me réconciliait avec des termes que je n'entendais plus, comme loutre, rivière, érable, champignon des bois, voilà, moi je suis une urbaine, je n'entendais pas ça. Mais jamais j'aurais osé en écrire. Parce que, je viens d'une culture où on se dit pas poète comme ça, ou bon, voilà. Et en fait, quand je suis allée sur les lieux de l'attentat, c'est ce que je raconte au début de l'effet haïku, ma mère habitait au-dessus du petit Cambodge, donc c'était un lieu qu'on connaissait très bien. Je suis allée devant ce trottoir minuscule, et j'avais pas de mots pour exprimer ce que je ressentais de cette vulnérabilité, de voir la ville aussi vulnérable. Alors je suis remontée, j'ai écrit « Sur les trottoirs gris, les bouquets de fleurs fanées, comme ils sont mouillés. Sur les trottoirs gris, les bouquets de fleurs fanées, comme ils sont mouillés. » Ce n'était rien, c'était 17 syllabes. Mais le fait d'avoir pu mettre une image, puisque un haïku c'est toujours une image, le fait de pouvoir le partager avec d'autres, de tous horizons, ça m'a montré que le langage pouvait nous aider à nous relever.
Ce que vous aimez, Pascal Schenck, dans les haïkus, c'est que dans le peu, on trouve parfois l'abondance, dans le petit, l'immense, dans le bref, l'éternel.
Vous savez, c'est incroyable parce que c'est à la fois très simple et très compliqué. Chaque instant est un rendez-vous avec l'éternel et avec l'éphémère. Donc, vous vous basez sur la nature pour écrire ces 17 syllabes et un haïku réussi, il va parler de manière énigmatique parfois, mais à tout le monde. C'est ce que j'aime dans cet art simple.
Et lire et écrire des haïkus intensifie votre sentiment d'exister ?
Oui, d'être au monde. Parce que vous voyez, je sors et je me dis, tiens, qu'est-ce qui va donner des haïkus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas, il ne faut pas que ce soit systématique. Au Japon, ils sont forcenés. Vous prenez un bus, ils vous disent, haïku, il faut écrire un haïku sur le voyage. Vous voyez, c'est un peu de commande. En revanche, quand vous vous promenez dans votre ville ou dans la nature et que vous êtes ouvert, vous vous dites, ce moment-là, chaque instant est un rendez-vous, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est une méditation créatrice. Et c'est ça que j'adore dans cette écriture, c'est que ça intensifie la capacité de méditation.
Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que vous en avez écrit au moment après les attentats et tout. Parce qu'il faut aussi dire que la poésie, parce que ça aussi, je pense qu'il faut aller contre ce cliché. La poésie, c'est abstrait. Alors oui, ça parle de la nature, mais ça parle de choses comme ça, loin, de sentiments inatteignables. Etc. La poésie, ça peut aussi parler d'ici et maintenant. Ça peut être politique. Ça peut être de la résistance. Ça peut être, ça peut être extrêmement concret.
C'est ce que j'ai aimé dans les haïkus contemporains.
Christine Lapelle-Edouelle, certains grincheux pourraient reprocher une forme de poésie-thérapie, de faire de la poésie, du haïku, un outil de développement personnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Why not ? En bon français, pourquoi pas ? Enfin, par essence, de toute façon, la poésie étant un moyen de s'agrandir, de encore une fois de toucher ce que nous avons de plus sensible. Donc on peut en effet considérer que c'est un outil de développement personnel. Pourquoi pas ? Ça n'a aucune espèce d'importance. À mes yeux, ce qui compte, c'est d'en lire, c'est d'en entendre, c'est de pouvoir avoir accès facilement à la poésie. Et par exemple, on sait bien que dans les moments de chagrin, Pascal vient d'en parler, mais dans les moments de chagrin, dans les moments de deuil, très souvent, la poésie est un refuge, un recours extrêmement important, et pas forcément d'ailleurs des poèmes, c'est une consolation, pas forcément des poèmes joyeux, gais, célébrant la vie, au contraire, des poèmes qui sont comme une résonance à la douleur que l'on peut sentir au moment où on la sent. On sait bien, par exemple, que Victor Hugo, et bon, Dieu sait s'il a été décrié, Victor Hugo, hélas, tout le monde connaît ce mot, mais Victor Hugo est quand même un poème absolument extraordinaire, absolument extraordinaire, à la portée de tout le monde, parce que c'est un poète simple, et ce qu'il a dit de la mort de sa fille, ce poème magnifique que tout le monde connaît, vraiment, il passe à travers les générations, et on peut le lire aussi bien maintenant qu'on le lisait au moment de la mort de la fille de Victor Hugo.
Jean-Joseph Julot.
Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Voilà, c'était pour l'anniversaire de la mort de sa fille, Léopoldine, qui, à Villequier, avec son mari et puis deux autres membres de sa famille, est morte noyée parce que le bateau avait chaviré. Et Victor Hugo, ça a été un deuil considérable. Il l'a appris d'ailleurs incidemment. Il revenait de voyage en Espagne et il s'assoit dans un café, il prend le journal et il apprend le décès de sa fille par, vous rendez compte de l'émotion épouvantable de...
Je crois que c'est le mot thérapeutique, puisque c'est le titre de votre émission, votre poésie est thérapeutique, qui n'est pas beau en fait, qui n'est pas poétique du tout,
exactement,
parce qu'il est médical. Mais si on pense à la poésie comme une alliée de vie, comme une source, enfin quelqu'un comme Christian Bobin en parle très très bien, il dit ce sera peut-être notre dernière manière de trouver un air respirable dans ce monde. Là, ça change tout. C'est comme si vous me disiez Mona Lisa, est-ce qu'elle fait du bien ? Moi, je pense que Mona Lisa fait du bien.
Mais
je pense que c'est une alliée de vie. Je pense que si les gens s'y précipitent, c'est parce qu'ils ont besoin de beau.
Oui, la beauté fait du bien. La beauté, l'équilibre, la beauté d'un paysage, la beauté de la musique, la beauté de la peinture, la beauté tout court, soigne, fait du bien, nous apaise et nous permet de nous ressourcer. Je crois que la poésie, c'est aussi une de ses qualités. On y trouve des choses que nous ne serions pas capables d'exprimer nous-mêmes de manière spontanée, mais soudain, il y a un écho qui se propage en nous et qui nous permet de nous agrandir. La poésie nous agrandit, nous rend plus intelligent, plus sensible et meilleur. Je suis convaincue de ça.
Moi aussi, c'est vrai. Et chaque poème est un refuge. On peut l'emporter avec soi. On dit un vers, ça va. Trois vers, bonjour les dégâts.
Ça, et c'était là, dans les années 80.
Un vers, ça va. Mais 14 vers, c'est encore mieux. 14 vers d'un sonnet. Un sonnet, ça fait 14 vers. Vous avez, vous en apprenez deux par jour. Deux, et vous faites fonctionner votre mémoire. Elle a besoin de fonctionner. Aujourd'hui, avec cette maladie terrible d'Alzheimer, on sait ce qu'il en est. Et donc, vous conservez ce sonnet. Vous le récitez quand vous voulez, où vous voulez. Et là, vous avez un refuge de beauté.
Moi, je voudrais, si vous m'autorisez à lire quelques vers de Louis Aragon, qui est tout de même un de nos poètes français les plus extraordinaires, qui a su manier, alors pas seulement le vocabulaire, bien entendu, pas seulement les images poétiques, mais aussi, chose très importante, la syntaxe. C'est probablement un des poètes français les plus forts dans le maniement de la syntaxe et qui a su en faire un outil poétique absolument remarquable. Alors je vous lis quatre vers d'un poème qui est très long et qui est absolument sublime et qui peut résonner pour tout le monde aujourd'hui. Le titre, c'est « J'arrive où je suis étranger ». Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger.
Bah on dirait un haïku. Hein.
C'est la beauté, ce sont les quatre
c'est
premiers vers. Lisez-le ce poème.
Je vous ai demandé en préparant cette émission quelques poèmes, quelques haïkus qui vous sont chers. Guimet Odissino.
D'abord René Char. Il ne faudrait pas aimer les hommes pour leur être d'un réel secours. Seulement, désirer rendre meilleure telle expression de leur regard lorsqu'ils se posent sur plus appauvris qu'eux. Prolonger d'une seconde telle minute agréable de leur vie. À partir de cette démarche, et chaque racine traitée, leur respiration se fera plus sereine. Surtout, ne pas entièrement leur supprimer ces sentiers pénibles, à l'effort desquels succède l'évidence de la vérité, à travers les pleurs et les fruits.
Pascal Schenck.
Alors, je vous en propose deux, hein, parce qu'ils sont courts et je vous les lis deux fois chacun à la japonaise. Le premier, il est du XVIe siècle, d'une bonzesse qui s'appelait Shiyoni. Première neige, ce que j'écris s'efface. Ce que j'écris s'efface. Première neige, ce que j'écris s'efface. Ce que j'écris s'efface. Et puis un contemporain pour montrer la vitalité, la modernité du genre, avec Igor Kézel-Perron, qui travaille à la Défense, qui est consultant et qui a écrit ce haïku minimaliste. Le ficus et moi, dans l'open space. Le ficus et moi, dans l'open space.
C'est voilà. Génial.
Ce qui est beau avec le haïku, Pascal Schenck, c'est que le lecteur est invité à habiter le silence qu'il nous offre après l'avoir lu. Je cite le poète Ojiwara Seinseishui, j'espère que je le prononce bien. Le haïku est comme un cercle, une moitié fermée par le poète, l'autre moitié par le lecteur.
C'est pour ça que c'est une méditation créatrice quand vous lisez du haïku. Parce que vous comprenez quelque chose, pas tout à fait. Vous raccordez à votre vie, vous raccordez à une émotion passée. Et là, vous travaillez avec le poète. C'est un moment de communion. Et d'ailleurs, c'est une poésie qui se pratique en groupe, je tiens à le préciser.
Jean-Joseph Julliet.
Moi, j'aimerais bien lire un Guillaume Apollinaire.
Oui.
Et tout le monde est d'accord. Et un qui est peu connu, qui s'appelle Cordechasse. Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame, hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincey, buvant l'opium poison doux et chaste, à sa pauvre âne, allait rêvant. Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent, les souvenirs sont Cordechasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Voilà. Le silence qui suit Apollinaire, c'est toujours du Apollinaire.
Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel. Les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens. Tiens, c'est idiot.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire?
et aime interpréter Petit Jeu.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, nous célébrons les vertus thérapeutiques de la poésie avec l'écrivain Jean-Joseph Julot, les journalistes Pascal Schenck et Christina Pelédouel.
J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie ? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime ?
Nouvel extrait du Cercle des poètes disparus. Christina Pelédouel, je rappelle que vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. Vous pensez que la pratique de la poésie peut influencer notre être au monde, pour parler comme Heidegger?
Eh bien, très simplement, oui. Et comment? Et comment? Bien sûr, écrire ou entendre de la poésie, ça, c'est comme si quelqu'un nous poussait et nous faisait faire un quart de tour de manière à avoir une autre vision du monde. Soudain, nous ne voyons plus les choses de la même manière.
De le recréer ?
De le recréer, bien sûr, d'avoir un regard différent. Pascal, tout à l'heure, lisait ce haïku sur la neige. Soudain, la neige n'a plus la même couleur, n'a plus la même sensation. Ou alors, au contraire, on retrouve les sensations que nous avions auparavant, que nous avons peut-être oubliées, celui de la neige froide et mouillée, de la neige qui fond, de cet effet glacé, de la beauté, de la lumière sur la neige, etc., etc. Et c'est bien sûr que oui, bien sûr que oui.
Pascal Schenck.
Et en plus, on est dans un temps de surcommunication. Vous le savez, le langage est uniquement consacré à l'information, à la communication, à l'évaluation. Et je crois que la poésie, c'est le dernier moment où on a des éclats de langage libérateurs.
C'est la liberté.
Les nôtres, ce que nous envoie enfin se connecter à un autre humain qui vous révèle qu'il a vécu cet instant comme ça, qui est sorti du discours social, c'est une grande chance.
Jean-Joseph Julot.
Oui, moi je pense aussi que être au monde, c'est partager. Aujourd'hui, tous ceux qui écoutent peuvent faire cette expérience immédiate de prendre une feuille de papier, un papier blanc vierge, et puis commencer à y mettre des pensées qui traversent l'esprit, et ensuite, eh bien, ce n'est pas un obstacle puisque maintenant il y a, pour communiquer, puisque maintenant il y a Internet. On peut donc le publier sur des sites qui se sont multipliés, partager avec les autres, et ça, c'est une expérience qui rassure sur soi-même, sur ce qu'on est capable de faire aussi.
Guy Métodissimo.
Est-ce que je peux placer là mon plume d'Henri Michaud, parce que ça, non mais ça tombe très très bien, ça tombe impeccable. La plus grande fatigue de la journée et d'une vie serait due à l'effort, à l'attention nécessaire pour garder un même moi à travers les tentations continuelles de le changer. On veut trop être quelqu'un. Il n'est pas un moi, il n'est pas 10 moi, il n'est pas 2 moi. Moi n'est qu'une position d'équilibre. Une moyenne de moi, un mouvement de foule. Et au nom de beaucoup, je signe ce livre.
Très beau,
c'est exactement ça. C'est-à-dire, Henri Michaud, à un moment, décide d'être une moyenne de beaucoup de moi. Il est une moyenne de nous tous et il tente d'écrire à notre place. Je trouve ça superbe. Mais dit avec une humilité, comme du bout des doigts, quoi.
Christina Pelédouel.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est l'importance de la poésie pour parler de l'amour. L'amour qui est quand même notre grande préoccupation.
Notre grande affaire.
Notre grande affaire. Or, c'est difficile parfois, et même souvent, de parler d'amour sans être complètement ridicule, sans avoir l'air pleurnichard, sans... Or, la poésie, c'est vraiment, vraiment le véhicule extraordinaire pour parler d'amour. Et pour ça, j'ai envie de vous lire un tout petit poème de Paul Éluard, qui a chanté l'amour d'une manière extraordinaire. Alors, ce poème s'appelle « Le phénix ». J'ai regardé devant moi, dans la foule, je t'ai vu. Parmi les blés, je t'ai vu. Sous un arbre, je t'ai vu. Au bout de tous mes voyages, au fond de tous mes tourments, au tournant de tous les rires, sortant de l'eau et du feu. L'été, l'hiver, je t'ai vu. Dans ma maison, je t'ai vu. Entre mes bras, je t'ai vu. Dans mes rêves, je t'ai vu. Je ne te quitterai plus.
Jean-Joseph Julot.
Oui,
les poèmes pour dire l'amour. Vous en avez un sous le coude?
Oui. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est de Gérard de Nerval. Il est un peu mystérieux, mais il dit tellement bien l'amour, il sous-entend tellement de choses que c'est un véritable charme.
Pascal Schenck.
Moi, je vais donner dans l'érotisme. Pour les haïkistes, c'est pas l'amour humain qui est vraiment très intéressant, mais plutôt l'érotisme. Donc, un contemporain encore, Igor Kesel-Perron, que je vous ai lu tout à l'heure, le consultant qui travaille à la Défense. On ramasse des myrtilles à la dérobée, tes seins. On ramasse des myrtilles à la dérobée, tes seins.
Et Guillemette Odissino ferme les yeux.
Ah oui, je me posais une question. C'est évidemment, vous les répétez, à chaque fois, vous les répétez, ces haïkus.
Oui, parce qu'en japonais, on les lit deux fois. Excusez-moi.
Et je trouve ça incroyable parce que ça crée en plus quelque chose de l'écho. Il y a quelque chose d'extrêmement pénétrant dans cette manière de le dire une première fois. Donc, c'est comme si le ver arrivait au monde.
Voilà.
Et une deuxième fois pour qu'il nous pénètre. Ça fait un effet fou. C'est pour ça que j'ai fermé les yeux à l'Irbi.
Alors, je voudrais attirer l'attention aussi sur le fait que la poésie peut être drôle. Elle peut nous détendre, elle peut nous amuser. Par exemple, Jean Tardieu, quoi qu'a dit, a dit rien. Quoi qu'a fait, a fait rien. À quoi qu'a pense, a pense à rien. Pourquoi qu'a dit rien, pourquoi qu'a fait rien, pourquoi pense à rien. Existe pas. Et alors, il y a aussi celui d'Apollinaire, le paon. En faisant la roue, cet oiseau, dont le pennage traîne à terre, apparaît encore plus beau, mais se découvre le derrière. Donc on peut s'amuser avec des poèmes aussi, on peut rire.
Christine Appelé-Douel, l'une des grandes vertus de la poésie, c'est sa force consolatrice, une force qui inspire et soutient dans les moments difficiles.
Ah oui, qui est vraiment, c'est une ressource que je ne saurais suffisamment indiquer. Si vous vous sentez mal, si vous avez du chagrin, si vous êtes perdu, lisez de la poésie, plongez-vous dans les poètes, prenez-les à bras ouverts. Ils ont toujours quelque chose à nous dire, toujours, toujours. Il y a toujours un poème ou un poète qui parle en écho à ce que nous ressentons et qui le dit évidemment de manière tellement plus intéressante, tellement plus belle, que soudain ce que nous vivons, ce que nous traversons, on est à la fois magnifié et en même temps compris. Nous avons le sentiment d'être compris par ce que dit le poème que nous sommes en train de lire et donc de ce que dit le poète. Il dit beaucoup mieux que nous ce que nous ressentons. Et c'est une aide absolument extraordinaire. C'est mettre des mots sur les mots.
Et il faut sortir de l'idée que la poésie enjolive la vie, enchante, fleurit la vie. La vraie poésie, celle qui vous touche, elle vous parle aussi bien du deuil que de la mort prochaine, que de la maladie. Par exemple, le haïku se pratique beaucoup dans des ateliers, dans des hôpitaux en ce moment, dans des maisons de retraite, parce que les gens y trouvent un réconfort réel de pouvoir garder des moments de leur vie en 17 syllabes. C'est vraiment rester du côté de la vie, quoi.
Est-ce que vous savez que vous parliez tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer? Les poèmes sont parmi les dernières choses dont se souviennent les malades d'Alzheimer. Les chansons et les poèmes, c'est absolument extraordinaire. S'il fallait une démonstration à l'envers de la puissance et de la force de la poésie, elle est là.
Écrire des poèmes détient des vertus thérapeutiques avérées, comme c'est le cas, on le sait, de l'écriture du journal intime.
Bien sûr, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est ce que ce que les personnes ont de plus profond et qui est soudain mis sur le papier, mis en forme, parfois sans filtre, comme ça, ou en donnant une forme comme la forme du haïku, ce que Pascal Schenck pratique beaucoup dans ses ateliers de haïku. Ça permet à la fois de canaliser ce que nous avons à dire, ce que nous ressentons, et en même temps de pouvoir, donc de le formaliser, et en même temps de le voir écrit. Et simplement le fait de le voir écrit, de le mettre à distance, permet de réfléchir, en tout cas de vivre moins mal ce qui est en train de se passer.
Alors aujourd'hui, on dispose d'une étude qui a été faite à l'hôpital de la Timone au service de psycho...
À Marseille,
au service de psycho-oncologie d'Éric Dudoit. Bon, alors il n'y avait que 3 patients, hein, c'est pas non plus une étude énorme, mais enfin, à qui on a fait lire et écrire des haïkus pendant 1 an. Et réellement, la transformation du vocabulaire des personnes après, quand elles parlaient de leur maladie, a été notée, et d'autres études sont en cours parce que réellement, il y a une ressource là pour la qualité de vie, bien sûr. Il n'est pas question de dire que c'est thérapeutique.
Bien sûr, évidemment.
Mais pour la qualité de vie, la manière d'utiliser les mots, la manière dont vous parlez du mal qui vous frappe, ça va avoir un impact énorme sur votre état.
Quelles sont les règles fondamentales, si je veux écrire, y a-t-il des dogmes à respecter?
Alors, vous prenez un carnet avec vous, un petit crayon, et vous commencez par aller vous promener, aller chez des amis, machin, tout ça, puis tout à coup, vous vous dites, tiens, je note une phrase. Alors, le chat de cet ami a beaucoup grossi, je sais pas, quelque chose qui vous amuse, un verre de lait qui tombe sur un tapis blanc, vous allez trouver, vous allez voir des choses qui vont vous étonner, ou la beauté des arbres. Et quand vous rentrez chez vous, vous écrivez cette phrase et vous allez essayer d'en faire 3 lignes de 5, 7 et 5 syllabes.
5,
7 et 5. Pour qui est l'impair? On parlait de Verlaine tout à l'heure, dans le haïku, il y a l'impair, toujours. Et voilà, et vous allez travailler un peu à ça, et puis la nuit d'après, vous allez vous dire, non, tiens, je pourrais mettre tel mot à tel endroit, ce sera plus fort. Et à un moment, ce haïku sera vivant, c'est-à-dire que, quand vous le lirez, vous vous direz, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et quand vous garderez votre carnet, 10 ans après, vous rouvrirez votre carnet, vous direz, mais c'est vrai, ce jour-là, c'était tellement rigolo de vivre ça, ou tellement émouvant.
Allez, pour terminer, un dernier poème, Jean-Joseph Julot.
J'étais, il n'y a pas longtemps, à Arles, vous savez, et puis je suis allé voir les Aliscamps que je n'avais jamais vus. Et là, j'ai ressenti une émotion vive, parce que je connaissais le poème depuis longtemps, ce poème de Boulle-Jean Toulet, qui est magnifique, et que je vais vous lire. Et justement, quand on voit ces lieux qui sont associés à un poème, il y a la rencontre de cette beauté qu'on s'est fabriquée peut-être, et puis de la réalité, et j'ai vraiment pas été déçu, le soleil brillait, c'était magnifique. Dans Arles, où sont les Aliscamps, quand l'ombre est rouge sous les roses éclaire le temps. Prends garde à la douceur des choses. Lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes. C'est de Paul-Jean Toulet. Et les Aliscamps, vous savez, c'est une nécropole romaine un peu mystérieuse là-bas.
Guimet Odissino.
Alors moi, on disait tout à l'heure que... En fait, le poème, ça se chante aussi. Et nous avons des grands poètes aussi dans la chanson française.
Charles Trenet,
mais on pourrait citer Barbara. Et moi, je voudrais citer juste une petite strophe de, je pense, la chanson la plus belle concernant les femmes. Elle est signée Anne Sylvestre.
Oui.
C'est une sorcière comme les autres. Alors ça, moi, il y a des strophes à ne plus savoir que faire. Vous rentrez dans cette chanson comme dans... En fait, dans l'émancipation féminine, vous plongez dedans. Et alors, par exemple, s'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte-fée. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, que vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs. Vous ai morcelé mon cœur. Et ça continue comme ça. Et ça dit tout ce qu'une femme peut être. Hier, aujourd'hui, demain. Une sorcière comme les autres, c'est un vrai poème. Sauf qu'en plus, il y a la voix d'Anne Sylvestre. C'est magnifique.
Et moi, j'aimerais terminer avec ce poème de Jacques Prévert, Rue de Seine. J'étais justement rue de Seine hier, donc j'ai eu envie de relire ce poème. Rue de Seine, 10h30 le soir, au coin d'une autre rue, un homme titube, un homme jeune avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue, elle le secoue, et elle lui parle, et il secoue la tête. son chapeau est tout de travers, et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles, tous les deux. L'homme, certainement, a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre, et sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri, tellement avide cette voix, et triste et vivante. Merci à tous d'être venus. Merci Jean-Joseph Julot, Pascal Schenk et Christy Lapelle-Edouel. Merci Guy Méthodisino. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli et le site de France Inter. Demain, vaste question, que faire de nos émotions ?